En préparation pour le décollage, vous devez être confortablement assis.
Avis aux passagers de tous les vols Sabena. Désormais, il n'y aura plus de réservation possible en siège fumeur.
Les vols Sabena sont 100% non-fumeurs. À partir d'aujourd'hui, la compagnie aérienne belge a décidé d'étendre l'interdiction de fumer sur tous ses vols.
Le dossier de votre fauteuil doit être redressé.
Il y a 25 ans, on fumait dans les avions. Maintenant, on se demande comment on a pu. Est-ce que dans 25 ans, on trouvera aussi absurde les fumées de nos avions d'aujourd'hui ?
Nous vous souhaitons un agréable vol.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous les mouches, c'est une expression belge. Un peu dégoûtante, un peu film d'horreur. Celui qui dit « après moi les mouches » dit qu'il s'en fiche en fait de ce qui vient après. Le climat, les suivants. Ce podcast va écouter les suivants. Les jeunes Européens qui devront gérer la Terre, notre cocon qui prend l'eau. Cet épisode s'intéresse à l'avion. À notre inconfort de passager assis entre deux sièges. D'un côté notre envie de voyager et de l'autre notre conscience de polluer. Voler proprement, est-ce que c'est où ce sera possible. Nous sommes sous le soleil, au bord de l'Escaut. J'ai vu arriver Sepp Smits comme une flèche, pile à l'heure du rendez-vous, à la seconde près.
Bonjour.
Ça va ?
Sur son skateboard électrique.
Ouais, j'habite pas trop loin, donc c'est pratique.
Un sourire entier sous la visière de sa casquette.
Une petite terrasse, comme vous voulez.
C'est lui qui a choisi cette terrasse dans son quartier.
Alors, en fait, on est juste à côté de Gand, où moi j'habite. On est dans un petit café, un peu dans la nature, dans le vert. C'est un bon endroit où il y a plein de monde qui vient chiller un peu dans le parc, il y a un peu d'eau autour, donc c'est chouette, c'est un bel endroit.
Cet endroit, Sepp l'a déjà quitté très souvent pour sa passion, son métier, qui est inhabituel et qui l'expose de façon particulièrement forte aux conflits intérieurs qu'on peut ressentir face à l'avion.
Ma profession, en fait, c'est je suis un snowboarder professionnel. Donc je voyage partout autour du monde pour m'entraîner et pour faire des compétitions à haut niveau dans le snowboard et plutôt dans le côté freestyle. J'ai atteint les Jeux Olympiques 2 fois où j'ai fait des finales. Et après aussi, je suis devenu double champion du monde.
Pour cette carrière-là, évidemment, vous devez vous déplacer. Pas question de compter sur les montagnes de Belgique et sur la neige de Belgique. Vous avez passé beaucoup de temps dans les avions.
J'ai voyagé beaucoup pour faire des entraînements, surtout aussi pour faire des compétitions. Il y avait des années où j'ai fait autour de 3 ou presque 4 fois un voyage autour du monde. C'était toujours en avion, surtout quand on avait des compétitions chaque semaine sur un autre continent. Ouais, ça pollue aussi bien la planète. Quand j'étais jeune, j'y pensais beaucoup moins que maintenant.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit « Ah oui, en fait, c'est réel, le souci de pollution, le souci pour la planète ?»
Quand je devenais plus âgé, je voyais quand même la différence. Ça faisait plus que 10 ans que j'allais aux mêmes endroits, par exemple en Suisse, en Autriche, sur des glaciers. Et je voyais moi-même que le glacier commençait à fondre, que l'endroit où le glacier commençait, tu voyais que ça se déplaçait chaque année un petit peu. Après, j'ai parlé un peu avec des locaux qui m'ont expliqué aussi un peu l'impact et la différence qu'eux, ils ont vu pendant une période encore plus longue. Et c'est hallucinant à voir.
Comment apaiser un peu ce conflit intérieur ? Renoncer à la carrière de sportif de haut niveau, inimaginable pour lui. Continuer comme avant, pareil. Alors, Sepp Smits m'explique qu'il a pris plusieurs décisions. Pour ses vacances, il ne bouge plus qu'en train et à vélo. Pour ses entraînements en Europe, il essaye, si c'est possible, de partir en covoiturage. Et pour les compétitions plus loin, eh bien, quand l'avion reste la seule option, il fait des calculs.
Mon père, c'est un pilote, donc je suis quand même un peu passionné par les avions. Et je cherche même les avions qui polluent moins que les autres. Je cherche toujours à prendre le trajet le plus court possible pour avoir le moins de CO2 possible.
Et compenser, par exemple, c'est une option ou pas ?
Ça, je fais chaque année. Depuis 3 ou 4 ans, j'ai commencé à compenser tous mes voyages. Les voyages en avion, les voyages en voiture, en train, et aussi les émissions de mon appartement. Je les compense tous en même temps sur la plateforme de Green Tripper. C'est une compagnie belge.
Et ça s'appelle comment, donc ?
C'est Green Tripper.
Green Tripper, c'est l'une des nombreuses applications qui propose de contrebalancer nos émissions de CO2 par des actions qui font baisser le CO2 quelque part dans le monde. La plantation d'arbres, par exemple, ou des projets qui freinent la déforestation. Je me rappelle qu'une compagnie aérienne m'avait proposé de payer une compensation de 2,40 euros à l'achat d'un ticket d'avion. 2,40 euros, c'est à peu près le prix d'une bière pas chère ou d'un ticket pour ce tram. Qu'est-ce que les compagnies proposent comme projet de qualité à 2,40 euros? Quelles initiatives de compensation servent de greenwashing et lesquelles absorbent efficacement le CO2 et méritent d'être soutenues? J'étais plongée dans ces réflexions et j'ai failli rater mon arrêt de tram. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde sur ce campus de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Il y a juste quelques étudiants qui viennent décompter les dernières heures ou les dernières minutes avant d'être en vacances. Vous allez partir en vacances après la session d'examen?
Oui.
Sûrement, ouais.
Oui.
Et vous allez où?
En Albanie, au Maroc.
Moi, je vais au Liban.
Vous allez en avion, je suppose, au Liban?
En avion, ouais, exactement. Là, je suis obligée. Je vais pas aller en bateau.
Idem.
Ce sont trois voyages pour voir leurs trois familles.
Je pense qu'on n'a pas assez d'informations sur la pollution des avions. Genre, on sait que ça pollue, mais on n'a pas trop de détails, quoi. J'y vais pas non plus pour faire n'importe quoi. J'y vais pour voir ma famille, donc...
Si c'est pour faire n'importe quoi, c'est... Vous avez une arrière-pensée si vous faites un vol juste pour des congés ou des vacances ou vous ne le faites pas?
Si, je le fais quand même, mais... Non, j'aurais pas trop d'arrière-pensée, je pense, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, en fait, donc...
En fait, il y a d'autres moyens pour les trajets courts, comme le train, sauf que le train, ça reste encore trop cher. Et en plus, l'avion, c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, quand on a un week-end, on n'a pas le temps, on va dire, de rester 8 heures dans le train, alors que c'est une heure de trajet en avion.
Ce serait possible d'aller en train pour l'Albanie ou en bus?
En bus, d'ici, ça serait 2 jours, je pense. En train, ça serait possible aussi, mais ça prendrait au moins une journée, alors qu'en avion, c'est 2h30.
Qu'est-ce qui pollue? Qu'est-ce qui compense? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Alors, je suis venue déposer tout mon paquet de questions dans un bâtiment de ce campus, baptisé D comme décollage ou dioxyde de carbone. Il y a là, au 6e étage, un bureau au mur couvert de cartes d'aéroport.
Bonjour,
je cherche le bureau de monsieur Frédéric Dubois.
Ah, c'est vous, quelle chance.
Et dans ce bureau, Frédéric de Brusques, géographe et professeur ici à l'ULB. L'impact des transports sur l'environnement, c'est sa spécialité. Je lui ai proposé de sortir parce que le ciel était bleu. Et au risque de jeter un froid, je lui ai demandé directement s'il comptait partir en vacances en avion.
Je ne vais pas me cacher, je fais partie du problème. J'ai souvent utilisé l'avion pour partir en vacances et ça risque bien de continuer. Mais pour cet été, je n'ai pas encore de plan fixé.
En quoi est-ce que vous dites que c'est un problème? En quoi est-ce que l'avion pollue?
Bon, quand on dit l'avion pollue, il faut distinguer deux effets. Le fait de brûler du carburant, donc du kérosène, génère à la fois des gaz à effet de serre, ce qui induit des changements climatiques, et produit des polluants atmosphériques, ce qui dégrade la qualité de l'air au niveau des aéroports et dans la région environnante.
Mais il ajoute qu'il n'y a pas que cette pollution-là, des gaz à effet de serre ou des particules ultra fines. Il y a aussi le problème des traînées blanches qu'on voit derrière les avions. C'est de la vapeur d'eau qui a gelé autour de particules de suie sorties des réacteurs. Si ces traînées apparaissent, elles peuvent mettre plusieurs heures à se dissiper et entraîner la formation de voiles de nuages, des cirrus. Ces traînées et surtout ces nuages induits ont un effet sur le réchauffement de la planète plus important que le CO2. Vous dites que le CO2, ce n'est qu'un tiers de l'impact problématique d'un avion sur la planète. Or, on a l'impression que les compagnies parlent de bilan carbone, quoi, ne regardent que le CO2, elles oublient d'incorporer les autres, entre guillemets, pollutions de l'avion dans leur bilan.
Oui, alors les compagnies font cette erreur, mais aussi beaucoup de politiques, d'organisations nationales ou internationales, et même un grand nombre de chercheurs, quand vous allez dans les colloques scientifiques, on continue à parler du carbone ou du dioxyde de carbone et on oublie les effets non CO2. Il faut aller lire une littérature de physiciens chimistes un peu arides, d'ailleurs, pour vraiment bien entendre parler des effets non CO2 du transport aérien. Donc c'est pas encore bien entré dans les esprits, clairement.
Dès lors, les citoyens, comme vous et moi, si on veut compenser, utiliser une compensation carbone, je vous vois rire, vous pensez du coup que ça ne couvre qu'une partie de la pollution. C'est imparfait comme système.
Alors moi, je pense que le problème est plus fondamental que cela. Donc, d'abord, payer pour réparer les dégâts qu'on a commis, ben, ça rappelle les indulgences de jadis. Hein. Donc vous tuez ou vous blessez quelqu'un et en payant, vous pouviez racheter votre faute. Donc c'est quand même un peu particulier.
Oui, mais enfin, ici, on plante quand même des arbres. On génère quand même des actions qui sont bénéfiques pour le bilan carbone.
Alors, à son bénéfique, c'est vraiment à voir. Si vous plantez des arbres, donc il faut savoir que les arbres captent du CO2 tant qu'ils sont en croissance. Une fois que leur croissance est terminée, ils ne captent plus de CO2, et le jour où l'arbre meurt, il relibère le CO2 qu'il a accumulé. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez une solution qui est temporaire, mais qui n'est pas définitive. Autre exemple, si vous pratiquez la compensation, vous alimentez par exemple des fonds qui vont financer des panneaux solaires pour des villages très pauvres et sans électricité. Alors tant mieux pour ces villages, mais vous ajoutez de la production électrique sans supprimer des gaz à effet de serre pour autant. Donc vous offrez de l'électricité à des villages qui n'en auraient sans doute jamais eu autrement, en tout cas pas à court et moyen terme, et donc vous n'arrangez rien au problème des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique.
Ces systèmes de compensation carbone sont intéressants à mettre en valeur pour les compagnies aériennes.
Ah oui, là, il n'y a aucun doute. Donc l'industrie du transport aérien, de manière générale, que ce soit les fabricants, les compagnies, les aéroports, cette industrie est acculée à devoir faire quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a pas de solution technologique à court et moyen terme pour résoudre le problème de l'impact climatique du transport aérien, dont on a dit tout à l'heure qu'il représentait 3,5% de l'impact climatique d'origine humaine, mais qui surtout est en croissance rapide, plus 51% sur les 15 dernières années avant le Covid. Et donc en fait, le progrès technologique, qui se traduit par des nouvelles générations d'avions qui sont de moins en moins consommatrices d'énergie, donc de moins en moins émettrices de gaz à effet de serre, ce progrès est plus qu'annulé par la croissance du transport aérien.
Mais on va voir arriver l'hydrogène, peut-être, pour les avions de ligne. Est-ce que ça, c'est pas la solution pour pouvoir voler moins polluant ?
À court et moyen terme, il n'y a aucune technologie alternative qui est mûre. Et donc la question est de savoir si soit on est ce qu'on appelle techno-optimiste, ça veut dire qu'on croit que la technologie va tout résoudre, le problème c'est jusque quand on va attendre pour avoir des solutions, ou si on pense qu'il faut prendre d'autres mesures, c'est-à-dire en fait modifier les comportements de mobilité.
Prendre moins l'avion, c'est évidemment décevant quand on aime voyager. Les vacances, c'est la raison numéro un des déplacements en avion, devant les trajets pour retrouver des proches et ceux pour le travail. Frédéric Dobrusquet explique que voler moins, eh bien, ce serait un bouleversement pour toutes les régions qui vivent du tourisme, pour l'emploi du secteur aérien, pour toutes les familles qui sont éloignées par la migration, comme nos trois étudiants, et puis un défi pour toute notre économie mondialisée. Mais est-ce qu'on peut vraiment pas continuer comme ça jusqu'à l'arrivée de nouveautés technologiques, d'un avion propre ? Je suis arrivée dans un lieu où on imagine les avions du futur. Alors je pensais déjà aux avions en arrivant sur le site, parce qu'ils défilent les uns derrière les autres au-dessus du quartier. C'est une route aérienne vers Brussels Airport. Je suis sur le site bruxellois du groupe chimique Solvay.
Elle a besoin d'un badge ou Oui, ok.
Un dédale.
Allez, let's go.
Qui mène à une salle de réunion.
Un café, un peu d'eau.
Où arrive Nicolas Cudré-Moreau.
Être au cœur de ces développements, dans une compagnie comme Solvay, qui investit plus de 300 millions d'euros par année en recherche, qui a près de 2000 chercheurs, c'est super excitant. C'est plus que passionnant et motivant.
Il est responsable de la recherche pour Solvay.
Depuis très longtemps, on travaille à développer des avions qui sont plus légers. Donc on remplace les métaux par des matériaux composites qui permettent de combiner rigidité, résistance, mais très faible poids. Maintenant, la deuxième grande étape, c'est de travailler sur la source d'énergie. Donc aujourd'hui, un avion, ça brûle du kérosène, donc ça pollue. Et donc le but, c'est de développer des sources d'énergie et des manières de stocker l'énergie différentes. On peut imaginer des avions électriques. On peut aussi imaginer développer des carburants qui sont des carburants propres, notamment l'hydrogène.
Mais comment faire voler un avion de ligne avec tous ses passagers uniquement sur batterie ou à hydrogène ? Et est-ce que ce sera possible un jour pour les vols les plus longs et les avions les plus grands ? En tout cas, il faudra repenser complètement l'appareil et puis aussi faire certifier chaque changement par sécurité. Et ça prendra effectivement plusieurs décennies pour ces deux solutions qui seraient les plus propres. Enfin, plus propres si l'électricité dont elles ont besoin est produite proprement. Pour produire l'hydrogène, il faut de l'électricité. Et si on produit l'électricité sur base de charbon ou d'énergie fossile, on est de retour à la case départ.
On est tout à fait d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on parle d'hydrogène verte, c'est-à-dire d'hydrogène qui est produit, par exemple, avec de l'énergie éolienne ou du solaire, produit de manière propre.
Qu'est-ce qu'il faut comme adaptation de l'avion pour qu'il vole à l'hydrogène ?
En fait, il y a toute une chaîne d'adaptation. Il faut déjà produire l'électricité pour produire l'hydrogène. Ensuite, il faut la transporter. L'hydrogène, elle a une particularité intéressante, c'est que c'est la plus petite molécule qui existe. Donc c'est une molécule qui adore passer à travers des matériaux. Donc c'est déjà là un challenge de la garder où on la veut. C'est-à-dire on doit développer des systèmes de transport, des systèmes de stockage qui gardent l'hydrogène à la bonne pression, à la bonne température, sans qu'elle s'échappe. Et donc ensuite, au niveau de l'avion, c'est le même principe. Vous devez stocker cet hydrogène. Ce n'est pas aussi simple que de stocker du carburant liquide comme le kérosène. L'avion devra être conçu autour de l'hydrogène.
Bon, ça s'annonce complexe. L'objectif serait donc un avion moins polluant qui n'émettra plus du tout de CO2 et dont les traînées de condensation disparaîtront plus vite. Mais on ne peut pas attendre aussi longtemps de toute façon. D'autres solutions vont émerger plus rapidement. Elles seront moins ambitieuses que l'hydrogène, mais moins désastreuses que le kérosène d'aujourd'hui.
Le changement dont on parle, c'est un changement qui va se faire en plusieurs vagues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que les solutions parfaites soient disponibles. Il y a déjà des solutions qui sont peut-être intermédiaires et qui peuvent être mises en place avant. Par exemple, on peut faire des carburants à partir de biomasse. C'est des sources de carbone qui ne proviennent pas du pétrole. C'est-à-dire que ça peut être des déchets organiques, ça peut être du bois. Donc tout ça, c'est la biomasse. On peut imaginer des carburants synthétiques. Donc tout ça, c'est des étapes qui peuvent être intermédiaires avant l'étape idéale de l'avion zéro émission.
Est-ce que vous pensez que pour arriver aux objectifs des accords de Paris sur le climat, on peut s'abstenir de voler moins ?
Alors, vu, disons, l'état de la planète, je ne pense pas qu'on peut se permettre d'éviter un des moyens d'action. Tous les moyens doivent être considérés. Alors après, on fait des choix de société, des choix économiques, des choix environnementaux, mais je ne pense pas qu'on puisse se permettre de ne pas utiliser certains outils de la boîte à outils.
Donc dans la boîte à outils, il y aurait donc les efforts des industriels et des efforts du citoyen. Voler moins et voler mieux.
Tout à fait.
Voler moins, ce ne sera pas facile devant toutes les promotions de compagnies à bas prix. C'est comme faire régime devant un buffet de dessert. Mais vu la pollution et le personnel dans les avions, est-ce que c'est normal d'ailleurs de proposer un vol Bruxelles-Sofia pour 13 euros cette semaine ? Moins cher que le train vers notre terrasse sur l'Escaut, 40 minutes et retour. Bon, tout ça ne me dit pas comment je vais partir en vacances cette année. En train, à vélo ? En croisière ? Non, pas la croisière, non. C'était un podcast RTBF Euranet Plus, réalisé par
Myriam Ball
et Christophe Bernard. Une série à découvrir sur Ovio, rtbf.be ou votre plateforme de podcast préférée.
Mieux comprendre l'Europe avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne.